Voilà. Bien, on reprend avec l'audition de Monsieur Proglio, qui était président d'EDF de 2009 à 2014. J'aimerais en préambule vous demander de bien vouloir excuser le retard que nous avons pris à l'occasion de la précédente audition. On avait un peu sous-dimensionné le temps qui nous était nécessaire à auditionner un chef de service qu'il était pendant 10 ans. Et c'est vrai que du coup, le nombre de questions s'est un peu accumulé. Voilà, Monsieur le Président, nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à notre invitation devant cette commission d'enquête chargée d'établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France, pour nous présenter les changements qui sont intervenus au cours de votre mandat de président d'EDF entre 2009 et 2014. La semaine dernière, nous avons reçu votre prédécesseur, Pierre Gadonnex, qui s'est lui aussi... Gadonnex, pardon.
Non, je voyais simplement
Voilà.
quel point ça aurait pu.
Qui lui aussi s'est aimablement plié à cet exercice. Cette audition, comme celle des autres dirigeants d'entreprise que nous avons entendus, nous a d'ailleurs permis de prendre conscience de la variété des questions que vous avez à traiter et des conditions dans lesquelles des priorités peuvent être définies ou des opportunités saisies. Elle a révélé aussi l'enjeu important pour les pouvoirs publics que représentait et représente toujours le contrôle ou la maîtrise des tarifs de l'électricité. Les années au cours desquelles vous avez exercé les fonctions de président d'EDF ont été marquées notamment par le Grenelle de l'environnement et ses suites, par l'adoption de la loi du 7 décembre 2010 portant nouvelle organisation du marché de l'électricité, qui a mis en place le dispositif de l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique, par l'accident de Fukushima en 2011 et par la décision prise par l'Allemagne de sortir du nucléaire. Ainsi qu'en France, la poursuite du chantier de Flamanville 3. Si on essaie de prendre en considération l'échelon européen, votre mandat a été rythmé par une communication sur la politique énergétique de l'Union européenne, un règlement pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, la stratégie pour une union de l'énergie, des directives sur l'efficacité énergétique et la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les règlements sur le marché intérieur de l'électricité et sur la préparation aux risques dans le secteur de l'électricité, et enfin le règlement instituant l'Agence de l'Union européenne pour la coopération des régulateurs de l'énergie. Ça en fait. Dans le domaine économique, la crise financière de 2008 continuait là aussi à la prise de votre fonction de produire ses effets. Il ne s'agit là que de quelques éléments qui nous permettent collectivement de nous repositionner dans le contexte qui a été celui de votre mandat. Je ne doute pas, comme nous avons pu le voir d'ailleurs lors des précédentes auditions, que les échanges que nous pouvons avoir avec vous auront ce caractère qui est celui des industriels, d'être clair et direct. Contrairement à ce qui est parfois le cas dans les administrations où c'est plus confus pour essayer de comprendre certaines choses. Voilà, je vais donc vous laisser, Monsieur Proglio, la parole pour un propos introductif. Mais avant cela, il me revient de vous demander, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, de bien vouloir prêter serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous prie donc de bien vouloir lever la main droite et dire « je le jure ».
Je le jure.
Je vous remercie et je vous laisse la parole.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Rapporteur. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs. Bon, je vais essayer d'être rapide dans mon propos liminaire, de manière à ne pas vous faire subir d'abord de longs palabres et puis répondre surtout à vos questions qui me paraissent plus pertinentes que ce que je peux avoir à vous dire. Il reste que le thème que vous évoquez est un thème essentiel, l'indépendance énergétique. Et par conséquent, la situation actuelle ne le rend que plus sensible. J'avais envie de vous donner quelques visions, mon point de vue, de ce qu'a été et ce qu'est devenu l'énergie, enfin l'électricité française, pourquoi et comment nous sommes devenus un grand énergéticien et pourquoi la France a eu cette indépendance dont elle a bien bénéficié pendant des années, et comment on en est arrivé à la situation actuelle. Au fond, c'est cette perspective-là que je voudrais tracer devant vous avant de répondre à vos questions sur l'action que j'ai menée ou sur les sujets divers que vous aurez à traiter. Pour ce qui me concerne, j'ai été administrateur indépendant d'EDF de 2005 à 2009. J'étais à l'époque président de Veolia, grande entreprise privée de délégation de services publics. Je ne sais pas si ça a eu un impact sur le choix de ma personne. J'ai l'impression que oui. Et c'est comme ça que j'arrive en fin 2009, en novembre 2009, à la tête d'EDF, formidable entreprise, dont je rappelle qu'à l'époque, elle était au CAC 40, une des grandes valeurs françaises du CAC 40, qu'elle était accessoirement l'entreprise préférée des Français, et qu'elle était dans le monde entier connue pour sa pertinence et son efficacité. J'étais donc très fier d'arriver à la tête de cette formidable entreprise, de à peu près 97 milliards de chiffre d'affaires, et dont les caractéristiques financières, on pourra les rappeler tout à l'heure, étaient très satisfaisantes. J'avais la fierté de prendre la responsabilité d'une entreprise dont je pensais que c'était une entreprise de service public. Elle était identifiée comme telle partout dans le monde. C'était le premier opérateur européen, probablement mondial, si on accepte la Chine, dont les contours des opérateurs, et plusieurs opérateurs d'ailleurs, ne sont pas faciles à cerner. Alors, qu'est-ce que c'est qu'EDF ? Quelle est cette entreprise EDF ? Elle a été le résultat d'une formidable aventure, mais surtout d'une vision et d'une volonté. Celle d'un gouvernement qui, en 1945-46, puisque c'est la date de création d'EDF, a considéré que l'énergie et donc l'électricité étaient un élément essentiel de la vie économique et qu'il était donc important de la considérer comme stratégique. Ce gouvernement-là a pris conscience du fait que la France n'avait pas beaucoup de matières premières, avait peu de gaz, pratiquement pas, peu de charbon par rapport à ses voisins, et que par conséquent, elle était totalement dépendante de ses importations en matière d'électricité, en matière d'énergie en général, d'électricité en particulier. Et elle s'est lancée, le gouvernement de l'époque s'est lancé trois défis majeurs. Le défi de l'indépendance énergétique, le défi de la compétitivité du territoire, et parce qu'à l'époque, le gouvernement était une alliance entre les gaullistes et les communistes, le défi du service public de l'électricité. Pour concevoir un service public accessible à tous et que tous les Français, quelle que soit leur classe sociale, quel que soit le lieu de résidence sur le territoire, en France métropolitaine ou outre-mer, avaient droit à l'électricité de la même qualité, au même prix. C'était donc un défi incroyablement exigeant. Il était entrepris, adossé à un choix technologique clair, l'hydraulique et le nucléaire, qui ont conduit à des errements, parce que c'est vrai que quand on parle du nucléaire, il y a eu des phases de choix technologiques dont je ne rappellerai pas le détail, parce qu'ils sont, mais on est parti avec des choix technologiques qui ont évolué dans le temps. Toujours est-il qu'il y a eu une continuité, une vision à long terme et une volonté claire d'aboutir, et c'est ça qui a donné naissance à cette aventure industrielle. Et puis, évidemment, avec une filière comprenant un outil pour la recherche, qui était le CEMA, et puis deux entreprises adossées à EDF, qui étaient Framatome et Cogema, l'une pour la partie industrielle de fabrication, l'autre pour la partie retraitement. Et donc, c'est cet ensemble qui constitue la filière nucléaire française. EDF a été considéré comme étant l'architecte ensemblier de l'ensemble et l'opérateur du service public de l'électricité. Système, j'insisterai là-dessus, intégré, cohérent et optimisé, comprenant la production, le transport, la distribution. Au travers d'RTE pour le transport et de ce qui est devenu Enedis, qui était autrefois EDF pour la distribution. Un quatrième défi a été relevé sans que même on ne s'en rende compte, c'était celui des émissions de gaz à effet de serre, qui n'était pas une préoccupation en 1946, qui est devenue de fait une préoccupation beaucoup plus moderne. Il reste que quatre défis quasi impossibles à tenir dans la France de 1946. Au début du XXIe siècle, EDF est exportateur d'énergie. EDF a le prix le moins cher d'Europe, deux fois et demi moins cher que l'Allemagne. un contrat de service public qui fait référence dans le monde et donne à la France un atout formidable en matière d'émissions de gaz à effet de serre. Les quatre paris ont été relevés. Il n'y avait plus qu'à tout détruire. C'est chose faite. Pourquoi ? Comment ? Puisqu'on est arrivé à l'asymptote, comment est-ce qu'on arrive à la situation actuelle ? Et c'est ça que je voudrais évoquer aussi devant vous aujourd'hui. Moi, je vois deux acteurs principaux. L'Europe et le gouvernement français. On peut en discuter. L'Europe. Alors, l'Europe, toute la réglementation européenne depuis 10 ans ne vise, enfin, n'a comme conséquence que la désintégration de l'entreprise EDF. Cette Europe qui a pris comme axe idéologique quasi unique la concurrence, qui, bien sûr, fait le bonheur des peuples. Bon. On voit ce que ça donne en matière d'énergie. Et qui s'est traduit comment en termes concrets pour l'entreprise EDF. Un, moi, quand j'arrive à la tête de cette maison, on ne parle que d'une chose, traumatisme absolu, la mise en concurrence des barrages. Formidable idée. Un barrage étant essentiellement un outil d'optimisation du système électrique, puisqu'il est la seule pile à combustible intelligente et efficace qu'on ait aujourd'hui. Un barrage sert d'abord à stocker, beaucoup plus qu'à produire. Donc la mise en concurrence consistait à supprimer le stockage. C'est génial. Et on voyait débarquer sur nos sites des Canadiens, des Allemands, des Russes, des Chinois, enfin tout le monde allait visiter les barrages. Puisque... Alors, il se trouve que les barrages appartiennent à l'État et sont gérés par EDF. Bon, l'État avait envisagé d'obéir à la doctrine européenne et de mettre en concurrence les barrages. Je me suis battu, évidemment, avec l'ensemble de l'entreprise. Rien n'a été conclu, mais rien n'est réglé. On reste en lévitation. La règle européenne existe toujours. On ne l'a pas encore respectée. On sera sanctionné, sans doute. La deuxième loi géniale, c'est la loi NOM que vous avez rappelée, qui consiste à imposer à EDF la vente à prix cassé, puisque inférieur au coût de revient, de 25% de sa production électronucléaire, à ses propres concurrents, pour qu'ils puissent vendre son énergie, la leur, aux clients d'EDF. Ça a très bien fonctionné, ils sont devenus riches. C'est d'une pertinence absolue. Bon. Je l'ai dénoncé pendant des années, avec l'efficacité que vous voyez. Et puis, pour couronner le tout, il fallait quand même définir un prix de marché, puisqu'il n'y avait pas de marché. On a défini un prix de marché. Prix de marché qui a été indexé sur quoi ? Sur le gaz. Vous allez me dire pourquoi sur le gaz, puisqu'on n'en utilise pas. Parce que les Allemands utilisent le gaz. Et que toute cette démarche, c'est une démarche allemande. Toute la réglementation européenne est une réglementation allemande. Alors je ferai une petite parenthèse qui est politiquement encore plus incorrecte. C'est que l'Allemagne, disons-le franchement, a... Depuis la création de la Bundesrepublik, choisit l'industrie comme axe majeur de son économie, et a choisi l'Ostpolitik pour son développement. C'est clair. Et c'est cohérent, d'ailleurs, pour ce pays qu'est l'Allemagne. Au moment où il fallait... Les Allemands ont compris leur problématique énergétique, et ont tenté ce qu'ils ont appelé l'Energiewende, la transition allemande. Ils ont inventé le mot avant nous, qui s'est transformée en catastrophe absolue, puisqu'elle s'est traduite par un affaiblissement historique des opérateurs allemands, quasi en ruine, que ce soit les deux grands, Weber et Hervé, se sont pratiquement ruinés. J'ai profité de l'occasion, d'ailleurs, pour vendre notre propre filiale allemande aux Allemands avant qu'il soit trop tard. Donc je l'ai très, très bien vendu pour 7 milliards d'euros, ce qui m'a valu un procès que j'ai gagné quand même. Enfin, de toute façon. Les énergéticiens allemands étaient à la ramasse totale, ruinés totalement. Et l'Allemagne était totalement vulnérable en matière énergétique. Comment voulez-vous que ce pays, qui a fondé sa richesse, son efficacité, sa crédibilité sur son industrie, accepte que la France dispose d'un outil compétitif aussi puissant que EDF à sa porte? L'obsession allemande depuis 30 ans, c'est la désintégration d'EDF. Ils ont réussi. Pour couronner le tout, il fallait évidemment séparer les réseaux de distribution et de transport du reste, c'est-à-dire qu'EDF aujourd'hui est une espèce d'Autriche-Hongrie rabougrie, si vous voulez. C'est-à-dire que il y a eu un empire et puis il y a une société qui est un producteur d'énergie électrique qui n'a plus accès à ses clients, dont son optimisation dépend d'une société RTE qui est en lévitation, avec laquelle elle n'a plus de rapport possible, puisqu'il est interdit de s'en occuper. Et tout ça va dans le sens de la désoptimisation totale du système auquel nous avons droit aujourd'hui. Le deuxième acteur, quand même, du paysage, c'est la politique nationale française. Bon, là, je serais très, très respectueux, mais enfin, vous connaissez le sujet bien mieux que moi. On a assisté à la recherche pathétique d'un accord électoral avec un parti antinucléaire dont la seule doctrine était celle-là. Alors, on en voit les prémices dès 1997-1998 avec l'abandon des réacteurs à neutrons rapides. C'est la première, je dirais, infraction dans le système qui remettait en cause la logique du système nucléaire français. Ensuite, il y a eu évidemment Fukushima et la formidable opération médiatique autour de Fukushima, les 20 000 morts de Fukushima qui n'ont jamais existé, puisqu'on a confondu le tsunami et l'accident. Et puis l'apogée quand même, puisqu'il y a toujours une apogée, c'est quand même la campagne de 2012, avec son cortège de joyeuseté, la fermeture envisagée et annoncée de 28 réacteurs nucléaires, bon, rien que ça. Et puis qui s'est transformé progressivement parce qu'il fallait quand même trouver une sortie par l'engagement sur la fermeture de Fessenheim. Bon, mais l'engagement de baisser à 50% la production électronucléaire française, enfin la part du nucléaire dans les besoins électriques. Alors mieux que ça, parce que j'ai assisté évidemment les bras avec beaucoup de désespoir à la mise au point d'une théorie absurde qui m'a été imposée à l'époque avec beaucoup d'insistance par les pouvoirs publics, qui était la théorie de la décroissance électrique. Il était de bon ton d'accepter l'idée de gré ou de force qu'il fallait considérer que la demande électrique allait baisser en France et que par conséquent, le nucléaire était surpuissant, qu'il fallait en diminuer la puissance. Alors, tout ça a eu comme conséquence d'abord la baisse des efforts de recherche, évidemment le désalignement des stratégies des entreprises dépendantes d'État, c'est-à-dire CEA, REVA et EDF, qui ont été mus par des courants divergents, avec comme corollaire l'affaiblissement évidemment global du système et, j'allais le dire presque anecdotiquement, mais c'est essentiel, les difficultés de recrutement qu'on a connues, c'est-à-dire que dans ce paysage où le nucléaire était considéré comme infâme et où il fallait absolument baisser, considérer qu'il n'y avait pas d'avenir au nucléaire, comment voulez-vous recruter des gens compétents? Le nucléaire avait disposé des meilleures compétences possibles dans ce pays qui sait fabriquer des énergies à très haut niveau, mais je dois considérer, je vous demande de m'en excuser, qu'EDF ne surpaye pas ses collaborateurs de très bon niveau, sont normalement payés, mais pas surrémunérés. Donc, les différentiels de rémunération entre l'industrie et la finance sont devenus gigantesques. Entre l'industrie privée et EDF, l'écart s'est encore creusé. Et pour finir, on vous dit, vous n'avez pas d'avenir et vous devriez avoir honte de ce que vous faites. Évidemment, c'est très attractif. Et donc, on a depuis 10 ans une panne de recrutement de gens de qualité qui va se sentir aujourd'hui quand, par un hasard extraordinaire, on veut relancer le nucléaire. Voilà la situation. Alors, rien n'est jamais désespéré, mais les choses ont été très, très, très abîmées. Je considère que le constat, aujourd'hui est facile, parce que quelques événements extérieurs ont fait qu'il s'impose à nous assez naturellement, alors qu'on le voyait depuis des années et que je l'ai dénoncé depuis très longtemps. Et face à ce constat, que faire pour redresser la situation? On va y venir. Moi, je pense qu'il faut se consacrer à des sujets prioritaires et à des actions prioritaires. La réflexion est faite. C'est l'action qui doit aujourd'hui être menée. Si j'osais, je vous dirais, donnez donc la priorité au développement, au développement de l'hydraulique. Il y a encore des opportunités d'accélérer dans l'hydraulique en France. Pourquoi hésiter? Pourquoi attendre? Et puis, faisons ce qu'il faut pour sécuriser le prolongement de la durée de vie du parc nucléaire existant. Si on faisait l'un et l'autre, on pourrait progressivement redresser la barre et se donner le temps de relancer le nucléaire, parce qu'il faudra 10 à 15 ans pour relancer le nouveau nucléaire. Ça ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà, Monsieur le Président, sans détour, quelques explications sur ce que j'ai vécu.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces propos très clairs et compréhensibles de tous. J'aurais quelques questions. Une première qui concerne les mécanismes européens que vous avez déjà un peu décrits, la loi NOM, la RAN et son absence d'évolution. La question, d'abord, c'est comment, parce que tout ça est mis en place sous votre enfin, au moment où vous êtes président de
sous
EDF,
mon regard,
sous votre mandat, comment est défini le tarif de la RAN? Comment les mécanismes d'évolution sont-ils alors imaginés? Et pourquoi est-ce que ça bloque à un moment donné?
Bon, le tarif, la REN, puisque c'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque et qu'on l'appelle toujours aujourd'hui, m'a valu des combats homériques, puisque l'État voulait absolument qu'il soit fixé à 39 euros. On hésitait, enfin, 36 avait été évoqué, puis 39. Bon. Je me suis battu sans relâche pour obtenir 42 euros, ce qui était inimaginable à l'époque pour mes interlocuteurs. Aucune évolution n'a été évidemment prise en compte. Je vais même faire la confidence qu'à ce moment-là, on est en 2012, dans mon combat contre les administrations compétentes, enfin réputées-elles, j'ai laissé filer la réglementation thermique 2012 tant le combat sur l'arène était compliqué. Et je me suis dit, tant pis, je sacrifie ce combat-là, qui conduit aujourd'hui à une catastrophe, puisque, comme vous le savez, il favorise totalement le gaz. Et, voilà quelques souvenirs. Donc ça a été fixé par voie autoritaire, au bout, encore une fois, d'un combat très inégal, puisque j'ai essayé de défendre le bon sens, donc j'étais dans le mauvais camp. Mais le principe même de ce prix de cession était absurde, puisque le principe même pour un industriel d'accepter de céder sa propre production à ses concurrents virtuels qui n'ont aucune obligation de production eux-mêmes. C'est quand même surréaliste. Donc on a fait la fortune de trader, pas d'industriel. On n'a pas de concurrents, si peu. Quelques éoliennes qui sont dispersées aux quatre vents et quelques champs photovoltaïques. Vous voyez d'ici c'est l'aspect risible du sujet. Non, c'est... et vous voyez des campagnes de communication de ces traders qui prétendent vendre de l'énergie verte. Je vous vends de l'énergie verte. J'ai des camarades, c'est la mienne. Et on a assisté à ça pendant des années. Avant que le client, qui lui-même s'est laissé abuser, finisse par se rendre compte du fait qu'il n'avait plus de garantie. Cette fameuse garantie dont il s'était, au fond, félicité pendant des années, puisque le tarif régulé lui permettait d'avoir une visibilité, une certitude, une garantie, une cohérence, tout ça a disparu. Où est le service public de l'électricité qui nous a tant et tant récompensés? Pourquoi l'avoir abattu? Pourquoi est-ce que c'est à l'État aujourd'hui de faire les compensations nécessaires pour que les gens à faible revenu puissent accéder à une capacité? Tout ça a été prévu.
On nous a décrit au cours d'une précédente audition une forme de mécanisme de chantage autour de la révision du tarif de l'ARAN.
Le chantage est quotidien, oui.
Et des concessions hydroélectriques qui dans une espèce d'impasse. Oui. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vécu, puisque à partir de 2012...
J'ai vécu tous les chantages.
L'ARAN n'a pas été révalorisé.
Ça ne m'a jamais tellement impressionné, mais j'ai vécu tous les chantages. Le seul chantage qui m'obsède, c'est l'intérêt de la France. Pourquoi prendre la France en otage de ce genre de réglementation absurde? Comment est-ce qu'on explique cette réglementation? Je voudrais qu'on ait simplement la question de fond, c'est pour qui, à quoi servent ces réglementations? Quel est le but? Alors, à chaque fois, on me disait, oui, mais le but, comprenez, on fait le bonheur du peuple. La libre concurrence. Mais il n'y a qu'un seul producteur, camarade. La libre concurrence. Il était clair que ça allait se traduire par un désastre. On y assiste aujourd'hui.
Alors, vous avez dans votre propos introductif évoqué la théorie de la décroissance du besoin électrique qui apparaît à partir de 2012. Est-ce que vous avez le sentiment que RTE a contribué à abonder cette théorie avec des études supposées techniques?
Lequel, RTE avant ou le RTE d'après? Non, mais les technocrates sont cohérents avec eux-mêmes. Enfin, si vous voulez, vous pouvez extrapoler. Les extrapolations font partie du monde virtuel. Donc, il suffit d'extrapoler le fait que les économies d'énergie peuvent être exploitées à l'infini et donc vous baissez la demande d'énergie tout court, d'énergie électrique en particulier. C'est un manque de réalisme total. Mais ils sont nombreux, donc il faut qu'ils s'occupent à faire des extrapolations. Mais comment voulez-vous l'expliquer à quelqu'un qui serait simplement quelqu'un de bon sens? Si on avait mis un artisan boulanger à la tête de la Direction générale de l'énergie, il n'aurait probablement pas réagi comme ça.
Et du coup, ça m'emmène à une autre question, puisque en fait, vous avez vécu ce basculement en 2012. Il y a une question à laquelle on n'a pas encore trouvé de réponse. C'est d'où viennent les 50% qui constituent l'objectif de part du nucléaire dans le mix électrique français?
Le reste des 50%, les autres 50%, vous
voulez dire? Non, mais dans la TEPCV, la loi de 2015, ouais. On dit l'objectif du nucléaire, c'est 50%. Pourquoi 50%? Enfin, comment se construit ce chiffre, de votre point de vue?
Ça, c'est complètement au doigt mouillé. Ce chiffre est construit en disant tout ne sera pas nucléaire. On va baisser la part du nucléaire, donc vous êtes à 75%, enfin on était un peu au-dessus, personne ne sait faire les calculs, mais enfin c'est pas grave. Donc ils ont dit, de 75, il faut faire une ristourne, tu prends quoi toi? Allez, 10-50. Voilà. C'est au dos mouillé, totalement. Personne n'a jamais estimé autrement que comme ça. Et puisqu'on a ensuite rajusté, puisqu'il faut être à 50, il faut baisser le nombre de réacteurs. Bien sûr. Puisque non seulement on va baisser la consommation d'électricité, mais on va diminuer la part du nucléaire. Donc il est légitime de réduire le nombre de réacteurs.
Moi j'aurais une...
Personne n'a jamais su d'où venaient les autres 50% par contre. Enfin, il y a l'hydraulique quand même, qui est renouvelable, mais qui est stable, qui est une très belle énergie. Le reste du renouvelable... C'est l'expérience allemande. Ils ont investi 500 milliards d'euros dans le renouvelable. Energiewende. 500 milliards d'euros. On en voit l'efficacité.
Oui, c'est un mix assez carboné en ce moment qui nous permet de finalement tenir l'hiver, le charbon allemand.
Et la lignite. N'oubliez pas la lignite, c'est encore plus vertueux.
Moi, j'aurais une dernière question avant de passer la main au rapporteur, qui est plus sur la filière. À l'époque où vous dirigez EDF, existe encore Areva et les batailles homériques que Areva et EDF se mènent pour vendre des EPR, le même EPR au même client. Comment vous percevez cela?
D'abord, il n'y a jamais eu de vente d'EPR à personne. Non, on a vendu. Non. Areva prétendait vendre des Atmea. Je ne vous dis rien, mais enfin, c'est un petit EPR de 1000 MW qui n'a jamais existé. Non. Il m'est arrivé à Matignon dans une réunion, parce que là aussi, on a eu des moments assez puissants. Le gouvernement avait décidé que EDF était le chef de file de la filière nucléaire française. Bon, c'était comme ça. J'ai hérité cette responsabilité par la fonction que j'ai exercée. Le nouveau gouvernement de l'époque a dit, bah, pas du tout. C'est le Premier ministre qui est le patron de la filière nucléaire. Alors, je connaissais le Premier ministre, il avait été maire de Nantes. Je connaissais relativement bien mes fonctions précédentes. Je le voyais un peu gêné. Alors, il organisait des réunions à Matignon de répartition des rôles. Uburoi. Alors, il y avait 11 ministres, les 11 directeurs de cabinet, 20 patrons de l'administration, et puis trois pelés, c'est-à-dire Mestrallet, j'étais là, bon. Lauvergeon, Cron et moi. Je dis les noms parce qu'au fond. Et on se répartissait les développements du nouveau nucléaire à l'international. Il n'y a plus qu'à. Alors on a assisté à des réunions, j'ai assisté à des réunions qui étaient hautes en couleur. Toujours. Le roi de Jordanie était venu à Paris, une fois de plus, il était venu déjà lors du précédent gouvernement, dire aux Français, vous devriez me vendre un réacteur nucléaire, mais je veux un 900 MW du parc existant, vous me vendez à. Comme il est amorti, vous me l'envoyez. Puis, bon. Et quand même, le gouvernement avait dit, bah non, on peut pas, c'est pas mobile, donc on va vous construire un réacteur. Bon. Et le Premier ministre dit, bon, alors qui la Jordanie, c'est qui? Chacun regarde ses chaussures, donc je dis, c'est Gérard. Ah, vous faites un cadeau à Mestrallet, Proglio? Je dis, oui, c'est lui, la Jordanie, c'est lui. Il n'osait pas dire non. Et pourquoi vous lui faites ce cadeau? Je dis parce qu'en Jordanie, il n'y a pas d'eau pour refroidir et pas d'argent pour payer. Donc autant que ce soit lui. Bon. Après, on allait vendre des Atmea à la Turquie. Je dis, ben, l'Atmea, c'est Mme Lauvergeon, puisque ça n'existe pas. Comment? Elle devenait toute rouge. Bon. L'Atmea n'a jamais existé. Donc, non, là, la répartition était assez simple. Alors, est venue sur la table évidemment la Grande-Bretagne, puisque c'était à l'époque où on commençait la négociation sur Hinkley Point et les EPR britanniques. Bon. Alors là, tout le monde voulait J'ai dit, écoutez, moi je veux bien, mais EDF a racheté, c'était mon prédécesseur que vous avez interrogé, il avait racheté British Energy, qui est devenu EDF Energy, on était donc propriétaire de tous les sites nucléaires britanniques. Je dis, mais si vous voulez, vous nous rachetez ça, et puis vous faites le développement que vous voulez. Mais tant que je suis propriétaire des sites. Donc l'affaire a été vite réglée aussi, voilà, pas tellement de débat là-dessus.
Mais pour autant, il y avait une ambition d'Areva de devenir un vendeur de centrales
Oui,
nucléaires.
par la dérive d'Areva, oui. On a vu ce que ça donnait.
Et elle était où cette dérive au-delà de cela?
La vanité. Non, mais Areva avait sa mission. C'était d'être un chaudronnier d'une part et de gérer les centres de retraitement. Bon, voilà. Alors, vouloir vendre, enfin, concevoir et vendre des réacteurs, ce n'était pas son métier. Bon, on a vu les conséquences de cela. Dans la conception d'abord de l'EPR, dont on aurait beaucoup à dire, et dans la réussite phénoménale de Kyoto. Qui a cloué le cercueil d'Areva, et puis voilà. Donc, Alors, arrivé ensuite en dépôt de bilan, il a fallu... Bon, c'est une autre histoire.
Très bien. Monsieur le rapporteur.
Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président, aussi, pour ces premières réponses. Je vais essayer d'être assez synthétique. Vous arrivez à la tête d'EDF en 2009, mais vous êtes administrateur chez EDF depuis 2005.
Absolument.
Dans quel état vous trouvez l'entreprise en termes de capacité d'investissement, de compétences, de morale des troupes, si vous me passez l'expression, et de projection dans l'avenir en termes de production d'énergie nucléaire, production d'énergie renouvelable?
Dans, vous savez, il est traditionnel que le nouvel arrivant trouve beaucoup de défauts à son prédécesseur et bien sûr à son successeur. Bon, je trouve une maison en assez bon état, avec de très belles compétences. Je dois reconnaître que j'étais... très heureux de la densité des compétences de la maison que j'ai trouvée à mon arrivée. Financièrement, sans énormes difficultés, EDF avait quand même financé tout le programme nucléaire, parce que on oublie de le mentionner. Enfin, c'est quand même EDF qui a financé le programme nucléaire français. Et l'endettement de la société en est le résultat, mais au fond, l'endettement d'EDF était parfaitement acceptable. Et... bon, rien de... Au fond, je n'ai pas trouvé une maison en mauvais état. J'ai essayé de donner une impulsion supplémentaire. J'ai fait quelques arbitrages. J'ai vendu donc l'Allemagne, comme je vous le disais. J'ai repris le contrôle de l'Italie, puisqu'on était planté avec une filiale italienne dont nous détenions 40%, qui est Edison, et dont nous avions 2,5% des droits de vote. Donc j'ai réglé le problème. On a pris le contrôle d'Edison par échange de titres avec les organisations de l'Italie du Nord, donc sans débourser d'argent. Et puis, j'ai mené à bien la négociation du contrat britannique sur le nucléaire britannique, dont on pourrait, sur lequel on pourrait revenir. J'ai quitté la maison avec émotion en fin d'année 2014, comme vous le savez. Et au fond, avec un bilan qui a été arrêté par mon successeur, par définition, puisque quand on quitte une entreprise à la fin de l'année, c'est le successeur qui arrête les comptes. 2014, c'est 78 milliards de chiffre d'affaires, c'est 17,5 milliards d'EBITDA, 3,750 millions de résultats nets après impôts, meilleur résultat que EDF ait fait dans toute sa vie. Et le ratio dette sur EBITDA, vous savez qu'il sert à peu près à calculer le niveau d'endettement, hein, puisque ce n'est pas la valeur absolue qui compte, qui était légèrement inférieur à 3, c'est-à-dire parfaitement acceptable dans les normes les plus sévères. J'en félicite mes équipes, hein, parce que ce n'est pas un travail individuel. Mais EDF était en pleine forme, malgré toutes les vicissitudes à laquelle nous avions été soumis à la fois par les réglementations françaises et européennes, les lois NOM et compagnie. Donc on avait survécu à tout cela. Évidemment, ça abîme durablement les performances de l'entreprise. On en a vu les conséquences, mais voilà ce que je peux dire. Avec déjà quand même une préoccupation en matière sociale, si je puis dire. Je n'ai pas eu de problèmes sociaux au cours de mes 5 années, pas de grève, un climat social apaisé. Mais une préoccupation en matière de formation que je trouvais à renforcer. Donc j'ai créé un centre de formation dédié de manière à renforcer la capacité de formation des équipes au sens large et pas uniquement des cadres dirigeants. Et d'autre part, une préoccupation alors de fond, qui était ce que je vous disais tout à l'heure, le sujet du renouvellement des cadres du nucléaire, qui est un sujet auquel on n'a pas réussi à apporter une vraie réponse, pour des raisons que je vous rappelais, c'est-à-dire le désamour du nucléaire dans l'opinion publique et dans les médias, et le fait qu'on respectait une norme de rémunération qui était assez exigeante.
Merci. À votre arrivée, ou quasi simultanément, se produit donc, enfin, le rapport Champsaur est rendu au ministre de l'époque, Jean-Louis Borloo, qui met en œuvre l'une des deux préconisations principales du rapport, qui est ce qui devient l'AREN. Vous avez dit que vous avez à de nombreuses reprises alerté. Est-ce que c'est-à-dire que vous avez eu des entretiens avec le ministre de l'époque pour lui expliquer que vous considériez que c'était une erreur et une faute industrielle pour EDF ?
Bien sûr.
Très bien. Quelle a été la réponse apportée ?
Politique.
C'est-à-dire ?
Je comprends. Oui, mais... Qu'est-ce qu'on fait ? Il arrive un moment où la décision l'emporte sur les réflexions, et ce moment, on ne peut pas l'éterniser. Et je trouve que cette démarche... Encore une fois, cette mesure était inique. Elle était destinée à casser la logique d'une entreprise comme EDF. Et je déplore qu'elle ait été acceptée par le gouvernement français, sous la pression, bien sûr, bruxello-allemande. Alors, je n'ai pas la vanité de décider à la place du politique. J'ai simplement souhaité alerter. J'ai alerté pendant toute ma période de responsabilité.
Vous succédez aussi donc à Pierre Gattonex, qui nous a expliqué lors de son audition qu'il s'était battu pour faire remonter les investissements d'EDF, en particulier en France, et qu'il avait notamment alerté le gouvernement depuis de nombreuses années sur la question du prix de l'électricité et la capacité pour EDF, avant même l'AREN, à investir dans un monde où le prix de l'énergie ne reflétait pas les investissements nécessaires. J'imagine qu'il vous transmet cette alerte en arrivant. Quelle réflexion ça vous inspire ? Est-ce que vous en parlez également au pouvoir public ?
Évidemment. J'ai négocié avec les pouvoirs publics au plus haut niveau, une pente tarifaire. Je pensais qu'il fallait, plutôt que de procéder par des augmentations successives, avoir une visibilité. C'est mieux pour tout le monde d'avoir une forme d'indexation des tarifs sur une projection qui permette à chacun de gérer ses contraintes. Au fond, je crois beaucoup plus à cela. Alors, peut-être est-ce mon ancien métier d'opérateur délégué de service public, mais dans la distribution d'eau ou dans les déchets, on a des formules de variation de prix qui sont négociées à l'avance et qui permettent d'anticiper les évolutions tarifaires des plusieurs années à l'avance, de manière à ce qu'à la fois les responsables politiques puissent en prendre acte, deuxièmement, qu'ils puissent secourir les gens qui ont besoin d'être aidés, et tout cela se fait dans une espèce de continuum beaucoup plus rationnel. Donc, j'ai négocié ça. Je reconnais que j'ai obtenu une pente tarifaire de mon interlocuteur. Mais, quelques mois plus tard, elle a été cassée par un décret du ministre ou de la ministre. J'ai eu 7 en 5 ans, donc ne cherchez pas. Là aussi, ça fait partie des joyeusetés du sujet, puisqu'on investit sur des durées très longues. C'est un métier où on gère le temps long. Les investissements, on les amortit sur 40, 50, 60 ans, 100 ans pour les barrages. En tout cas, non pas comptablement, mais économiquement. Avoir des ministres dont la durée de vie ne dépasse pas 9 mois est quelque chose d'assez difficile à gérer. Je le dis pour l'avoir vécu. Donc... Chaque ministre est évidemment très demandeur de communication d'une part, et puis d'attacher son nom à quelque chose qui soit populaire. Donc le fait de prendre la décision de refuser l'augmentation des prix de l'électricité était effectivement à court terme relativement populaire. J'ai eu droit à ça aussi. Donc c'est une discussion inévitablement complexe avec les pouvoirs publics sous toutes leurs formes, mais en fait tout ça remonte assez vite à des très hauts niveaux parce que personne ne peut prendre cette décision sans avoir au fond l'aval et l'accord explicite du politique. Et je comprends que le politique soit en difficulté pour augmenter les tarifs, et c'est la raison pour laquelle je suggérais qu'il y ait une gestion commune au travers d'une pente tarifaire. J'ai toujours la faiblesse de penser que c'était la bonne solution.
Donc vous décrivez à votre arrivée une entreprise globalement en bon état, y compris du point de vue de la santé financière et des compétences.
Oui,
il y a un projet néanmoins à votre arrivée qui doit vous interroger, c'est celui de l'EPR de Flamanville. D'abord, vous étiez administrateur en 2005 en arrivant. On lance un seul réacteur, la construction d'un seul réacteur. En mai 2006, le coût est estimé, c'est le rapport Foltz hein, qui donne ces chiffres, à peu près à 3 milliards d'euros avec une mise en service prévue en juin 2012.
Ça, c'était le bouquin de référence d'arrivée. Hein.
Quand vous arrivez, 3 milliards l'EPR. Quand vous arrivez légèrement après, en juillet 2010, le coût est de 5 milliards avec un couplage prévu au réseau en 2014. Et en novembre 2014, on est à peu près à 9 milliards d'euros et un démarrage prévu en 2017. À la fois, quand vous n'étiez pas encore président d'EDF, puis ensuite, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé selon vous ?
Malheureusement, oui. L'EPR est un engin beaucoup trop compliqué, quasi inconstructible. Enfin, on en voit aujourd'hui les difficultés. Les grands patrons du nucléaire d'EDF l'avaient anticipé. Mais la dérive, encore une fois, d'organisation du système nucléaire et la prédominance d'Areva dans ce dispositif pour des raisons non techniques et absurdes fait que c'était le seul outil qui était disponible dans notre univers. Bon, j'avais pesté en étant administrateur indépendant contre les avenants au contrat de construction de l'entreprise de construction. On était au 15e avenant. Pas tous les trois mois, on avait un avenant qui était porté à la connaissance du Conseil. J'avais dit, mais enfin, c'est un contrat au forfait. Comment est-ce qu'on peut ? Et j'ai donc vu le patron de l'entreprise de construction, dont le patronyme est bien connu, et qui est le constructeur de Flamanville, en disant, écoute, c'est pas possible. Il m'a dit, viens avec moi, on va sur le site. Et là, bon, c'est vrai que... Et alors, l'entreprise est dans une situation relativement confortable en disant, tu sais, si j'ai pas l'avenant, j'arrête les travaux. Parce que je peux pas m'en sortir. J'ai déjà perdu 250 millions, donc j'arrête. Et donc, vous passez le 17e, le 18e, le 19e, le 20e avenant, c'est une vie sans fin. J'ai eu la faiblesse d'annoncer pour 2014 la connexion au réseau parce que mes ingénieurs m'avaient dit, écoutez, chef, vous pouvez annoncer 2012, ça devrait coller, quoi. J'ai pris 2 ans de marge. Non. Toujours pas connecté en 2022. Donc, non, il y a un vrai problème de l'EPR.
Ce que je comprends pas, en fait, c'est comment un tel projet... comment il peut y avoir un tel décalage ? C'est-à-dire comment est-ce que, au fur et à mesure des années...
C'est intolérable et en même temps, il faut revoir la conception de l'EPR.
Mais à nouveau, on ne cherche pas des fautes individuelles. Ce qu'on essaye de comprendre, c'est ce qui peut permettre à des ingénieurs chez EDF d'aller expliquer au président-directeur général un délai et un coût qui, manifestement, ne sont même pas envisageables d'un point de vue technique.
Ni maîtrisables. J'ai changé les équipes. J'ai pas réussi à changer l'EPR. Bon, mais encore une fois, on a la conjonction de deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est la complexité du design de l'EPR qui est totalement à revoir. Et donc, on avait déjà initié un travail en commun avec Areva de l'époque, après le départ de Mme Lauvergeon, pour concevoir un EPR nouveau, on ne l'appelait pas encore EPR2. Qu'on croyait destiné à la Pologne. Enfin, vous avez vu que la Pologne avait acheté américain, mais enfin bon. De manière à ce qu'on tire les enseignements de toutes les erreurs de départ de l'EPR. La deuxième raison, c'est le fait que la filière nucléaire française n'a plus construit de nouveaux réacteurs depuis 20 ans. Et le savoir-faire en matière de maintenance, a été bien maîtrisé. En matière de construction nouvelle. C'est la raison pour laquelle j'ai imaginé, c'est l'orientation que j'avais donnée au cours de mon mandat, qu'il fallait repenser l'EPR complètement, refaire un réacteur différent, un nouveau design. Ça allait nous prendre 10 à 12 ans, mise au point. Et que pendant ce temps-là, on ne pouvait pas laisser la filière nucléaire sans carnet de commandes. Le grand carénage, c'est-à-dire en fait les investissements de rénovation du parc existant, ne suffisant pas. Et par conséquent, je pensais à une coopération avec les Chinois et les Russes à l'époque, qui étaient ceux qui développaient du nouveau nucléaire. Ils se construisent 10 réacteurs chaque année en Chine. Et les Russes ont aujourd'hui à peu près 40 réacteurs en commande dans des greenfields, des nouveaux réacteurs. Et donc je pensais qu'il était bon pour la filière française de ne pas être absent et que par conséquent, en attendant qu'on ait un réacteur français, que nos entreprises puissent travailler sur du nouveau nucléaire. Bon, on en connaît la suite, mais voilà comment j'avais imaginé l'évolution du sujet.
D'accord, je comprends qu'il y a quand même une question de compétence quand vous arrivez aux responsabilités à la tête d'EDF, parce que là, finalement, le dernier réacteur a été mis en service au début des années 2000, donc on n'est pas à l'époque, il n'y a pas un si grand déficit de compétences, j'imagine, si on met le dernier réacteur.
Il y a un déficit d'expérience des sous-traitants, de construction.
D'accord.
Parce que l'effet de série qui avait tellement réussi à la France, on a construit jusqu'à 5 réacteurs par an au moment de réalisation du parc, a eu un effet extrêmement positif sur la filière. Le fait de n'en avoir plus construit depuis 15 ans, parce que la mise en service veut dire qu'il était construit, donc a un impact extrêmement négatif sur la même filière. Le BTP, l'industrie lourde, la chaudronnerie, on en voit les conséquences aujourd'hui.
Merci. Une question sur les projections, à peu près, effectivement, à la période 2012, dans la suite des questions évoquées par le président, à la fois sur les prévisions de consommation d'électricité et puis sur la capacité à développer les énergies renouvelables. Juste à votre place, il y a quelques minutes, le directeur général de l'énergie et du climat, qui était en poste en 2012, nous a dit que à cette époque, les prévisions d'RTE sur la consommation électrique apparaissaient crédibles, qu'elles n'ont d'ailleurs pas été invalidées avec le temps, puisque les prévisions à court terme étaient assez stables, et c'est ce qui s'est passé, et que le changement a eu lieu plus tard. Donc première question, est-ce que vous, à l'époque, vous aviez déjà l'intuition que ces prévisions n'étaient pas bonnes? Est-ce que vous aviez connaissance d'interlocuteurs qui, eux, savaient que ces prévisions, qui étaient pourtant celles de RTE, n'étaient pas bonnes? Et ma deuxième question, c'est que le directeur général de l'énergie et du climat nous a expliqué qu'il avait fait le tour des interlocuteurs en arrivant à ses responsabilités, j'imagine donc du PDG d'EDF, et qu'il a souligné le fait que déjà à l'époque, le gouvernement qui arrivait avait des objectifs très volontaristes en matière d'énergie renouvelable. Et il a dit que ce scénario lui apparaissait plausible, y compris eu égard aux capacités industrielles du pays. Est-ce que vous partagiez à l'époque cette analyse ? La fin de la question, c'est vous rencontrez le nouveau DGEC à la fin de l'année 2012. Il vous dit que les hypothèses du gouvernement en matière de capacité de construction d'énergie sont très importantes. Qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'énergéticien ?
Écoutez, la France à cette époque-là, le parc nucléaire français fournit à peu près 75 à 80% des besoins électriques de la France. L'hydraulique à peu près 12-12,5%. Il reste donc un delta qui était réservé soit aux moyennes pointes, donc on avait encore quelques centrales de pointe, les centrales au fioul d'ailleurs qui étaient dans l'ouest de Paris, et puis quelques centrales au charbon qui ont été ensuite transformées en charbon propre d'ailleurs. Donc on pouvait considérer que le renouvelable avait potentiellement une place à occuper, et c'est la raison pour laquelle j'ai pris la décision de prendre le contrôle d'EDF Énergie Renouvelable, Énergie Nouvelle, qui était la filiale dédiée d'EDF à 50-50 avec son fondateur qui était Paris Moratoglou. Considérant qu'il fallait d'abord montrer qu'on n'était pas totalement absent des énergies nouvelles et qu'on n'était pas nucléariste obstiné, et que d'autre part, ces moyens pouvaient être utilisés éventuellement en complément de la capacité existante. Sans oublier quand même que le renouvelable est évidemment intermittent, que le stockage n'est toujours pas disponible, puisque nos centres de recherche considèrent encore aujourd'hui qu'il faut encore 20 à 25 ans pour que le stockage soit effectivement efficace en termes économiques, et que par conséquent, le renouvelable reste une énergie complexe à gérer, à qui on accorde, par principe, la priorité d'accès au réseau, mais qui n'intervient que lorsqu'il y a du vent ou lorsqu'il y a du soleil. C'est-à-dire, bon, ni la nuit, évidemment, ni quand il fait très froid, parce qu'en principe, il n'y a pas de vent quand il fait très froid. Donc, le renouvelable n'est pas utile en période de pointe. Ce qui fait que l'injection du renouvelable dans le système impose une flexibilité au nucléaire que le nucléaire n'a pas spontanément et qui nous a coûté de mettre au point de manière à ce que les centrales puissent être un peu plus flexibles, puisqu'elles sont en principe conçues pour des besoins de base. Donc voilà comment j'ai vu la part du renouvelable. La France n'est pas un pays dans lequel le renouvelable a une place considérable à prendre, à mes yeux.
Du coup, j'aurais juste deux petites questions et puis ensuite on passe aux membres de la commission. Ces dernières années, c'est entre 12 et 15 gigawatts de capacité de production pilotable qui ont été fermées. Une partie sous votre mandat. Comment ces choix de fermeture de centrales pilotables, charbon, fioul, se fait, s'imagine, se conçoit à l'échelle du système et de la pointe?
D'abord, ça se conçoit longtemps à l'avance. Donc, le fioul, bon, on avait décidé d'arrêter parce que c'était l'énergie la moins compétitive et la moins propre, au fond. La centrale au fioul était déjà dans les cartons comme devant être fermé lorsque j'ai pris les manettes d'EDF. Le charbon, on savait que le charbon n'avait pas un avenir très brillant, si ce n'est qu'au fond, on avait réussi, nos équipes ont conçu des centrales à charbon propre, donc Cordemais en particulier, qui répond à toutes les exigences en matière de qualité environnementale et que par conséquent, on pouvait utiliser là, par contre, en pointe ou en appoint. Donc voilà comment les décisions se prennent. Elles se prennent des années à l'avance parce qu'il y a un problème industriel et un problème social à traiter qui ne s'improvise pas. Ce ne sont pas des décisions qu'on peut gérer la petite semaine. Il faut un biseau dans le temps assez bien établi. Et au fond, j'ai pris quelques initiatives et j'ai appliqué les initiatives de mes prédécesseurs dans ce domaine-là. Voilà.
Est-ce que le critère de la pointe à ce moment-là comment vous prenez ce critère de la pointe
Il est essentiel. C'est essentiel. Il faut que la capacité de production puisse répondre jusqu'à y compris à la pointe. Donc ça. Sachant que par ailleurs, comme il existe des interconnexions, notre capacité de production excédentaire, on arrive à l'exporter assez facilement. Et EDF était exportateur net d'énergie électrique pendant toute ma période de responsabilité. Alors, la vérité, c'est que dans la même journée, on achète et on vend, parce qu'on optimise. Mais globalement, et pour simplifier le sujet, EDF était exportateur net d'énergie électrique. Notre capacité électronucléaire tournait, la production électronucléaire tournait autour de 420-430 TWh, à cette époque-là. Et l'hydraulique est assez stable, puisque l'hydraulique, là, encore une fois, sert d'optimisation. Donc on voit que l'essentiel du parc français répondait aux besoins et que la pointe, en dehors de quelques rares exceptions, de très grandes pointes de froid l'hiver où j'ai assisté à quelques réunions au centre du dispatching d'RTE à Saint-Denis où on évoquait l'éventualité de délestage partiel qui n'ont jamais eu lieu à Haute-Mort. Enfin, c'était prévu pour le cas échéant répondre à une crise éventuelle. On ne peut d'ailleurs jamais exclure qu'il y a un problème sur une des centrales. C'est arrivé l'été, par exemple, à cause des baisses de régime d'étiage des fleuves et qui nous imposait, par précaution et souci environnemental, d'arrêter des réacteurs pour éviter que les eaux de refroidissement ne, ne pompe trop la rivière concernée. Donc c'est arrivé, mais sans qu'il y ait eu jamais de grave dysfonctionnement.
Très bien. Et dernière question, c'est sous votre mandat que démarre la prospective sur le projet Hinkley Point. Mmh. Comment est-ce que vous imaginez à l'époque la structuration du financement ?
Hinkley Point, c'est c'est la première étape d'un programme nucléaire britannique qui est en trois étapes, prévues et négociées avec les pouvoirs publics. J'ai négocié personnellement avec le Premier ministre britannique le contrat d'Hinkley Point. Alors, le financement, c'est très simple. Le contrat portait sur plusieurs thèmes. La construction de deux réacteurs nucléaires, deux EPR, bien sûr. Deuxièmement, j'ai réussi à faire adopter par les Britanniques un contrat qu'ils appelaient, eux, Contract for Difference, qui n'est que l'application en droit britannique de ce qu'on appelle, nous, contrat de garantie de recettes dans le transport public en France. J'ai calqué ce schéma-là. C'est-à-dire qu'au fond, vous avez une bande passante tarifaire qui est prévue. Si les prix de marché dépassent la bande tarifaire, alors c'est une redevance qui est due au concédant qui est l'autorité britannique. Et si, inversement, les recettes ne sont pas suffisantes, alors vous avez droit à une subvention jusqu'au haut de la bande passante. C'est exactement un contrat de garantie de recettes à la française. Donc ça, c'est le contrat de base d'Hinkley Point. Troisièmement, j'avais négocié avec les Britanniques que le tarif appliqué serait de 92,50 € le mégawattheure. Quand, à l'époque, je le rappelle, le prix de marché en Grande-Bretagne était de 40. Contrat garantissant sur 35 ans les 92 € le mégawattheure. Troisièmement, j'avais négocié avec les pouvoirs publics britanniques qu'EDF soit actionnaire à 45% seulement du projet, de manière à ce que nous déconsolidions la dette de notre bilan. Alors, il manquait 55%, bien sûr. J'avais tordu le bras d'Areva, je le reconnais, pour lui imposer de prendre 10% du capital, sous les couineries de mon interlocuteur, de Courcelle, qui malheureusement nous a quittés prématurément, mais en lui disant, écoute, c'est simple, le capital social sera de 5 à 7 milliards de livres, 10% c'est 700 millions de livres, je te donne un acompte sur commande, à due concurrence, ça tu n'as pas de problème de trésorerie. Il a finalement accepté. Et puis, j'avais trouvé des actionnaires chinois. Bon, j'étais allé vendre le projet en Chine. Alors, il y a deux acteurs chinois, CNNC et CGN. CGN qui était notre partenaire historique. CNNC qui est son concurrent, enfin, l'autre nucléariste chinois. Ça s'est fini, évidemment, comme toujours, par un arbitrage du président chinois, Hu Jintao de l'époque, qui a désigné comme opérateur CGN, mais en disant aux deux 50-50, vous faites 50-50. Et il voulait prendre 45%. Je pensais qu'avoir les Chinois à 45%, ça poserait problème, parce que je ne voulais pas qu'ils soient à parité avec nous, pour pas qu'il y ait de conflit de responsabilité. Et j'avais convaincu les Saoudiens, qui eux avaient un programme nucléaire sous le coude, de s'y joindre. Bon. Et les Saoudiens avaient choisi le groupe Ben Laden pour être leur représentant. Alors, c'est vrai que j'ai eu un succès mitigé avec David Cameron quand je lui ai dit que Ben Laden allait investir dans le nucléaire en Grande-Bretagne. Je dois dire, il m'a dit non, attendez, les Chinois, c'était déjà difficile, mais alors là, Ben Laden dans le nucléaire, laissez-moi passer les élections. Il a été battu. Mais c'était ça l'idée, c'était 45% EDF, déconsolidation. Donc le sujet se limitait à, d'une part, au capital social, enfin 7 milliards de livres, c'est pas non plus la mer à boire, 45% de 7 milliards, c'est pas quelque chose d'essentiel pour EDF. Et puis, le financement ne pose aucun problème, sachant que la dette, j'ai oublié de le dire, autre élément de discussion, était garantie par la Banque d'Angleterre. Pourquoi j'avais fait ça ? Bon, pas de témoin ici. Parce que je me suis dit, un contrat avec les Britanniques, bon, il vaut mieux se garantir. Et je voulais qu'il soit solidaire de l'équilibre économique du projet. Je me suis dit, bon, les 92 et 50 ne seront appliqués que dans 10 ans. J'étais optimiste sur la construction de l'EPR. Donc, autant, il faut faire en sorte que les Britanniques soient solidaires de l'équilibre économique. Et donc, je leur ai demandé de garantir la dette, ce qu'ils avaient accepté de faire. Bon. Donc, le financement ne posait guère de problème métaphysique. Le contrat a évolué après mon départ de manière très différente. D'où la démission de mon directeur financier, d'ailleurs.
Merci beaucoup. On va passer aux questions des groupes. Alors, pour le Renaissance, il n'y a plus personne. Monsieur Tanguy.
Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Proglio, pour cet exposé très complet qui couvre vraiment des sujets très différents. Donc, je vais essayer de pas me disperser dans mes questions. Vous avez soulevé au début de votre présentation un sujet assez original sur lequel j'aimerais que vous reveniez. C'est le problème de la rémunération des professionnels et en particulier des cadres, aussi bien dans l'ingénierie que dans la gestion, j'imagine, susceptibles d'être gardés dans la filière par rapport à la concurrence mondiale qui évidemment s'opère sur les cadres dirigeants et les ingénieurs. Est-ce que vous pourriez revenir effectivement sur le cadre que vous avez trouvé, si effectivement ça vous a posé problème dans la rétention de talents qui ont pu partir de votre entreprise, aussi bien vers d'autres entreprises françaises que peut-être vers l'international, et si le cadre encore actuel tel que vous le connaissez pose encore problème pour garder des talents ou voir pour voir des talents s'enfuir. Donc, est-ce qu'il y a une réflexion à mener pour garder notamment les compétences qui sont formées en France ou le cas échéant pour attirer aussi des compétences de l'étranger dans la reconstitution de la filière. Ensuite, vous avez parlé du potentiel hydraulique d'énergie hydroélectrique qui reste à exploiter. Est-ce que, quand vous étiez président d'EDF, vous avez transmis au gouvernement des éléments quantifiés sur le potentiel qu'il restait à exploiter, aussi bien pour la production d'électricité que pour la mise en place, l'installation de nouvelles STEP. Ensuite, vous avez, et j'essaie de respecter vos mots, dit que vous avez assisté à des décisions que moi je qualifierais d'absurdes sous votre regard. Et ensuite, vous avez dit que tout cela était prévu, les conséquences que ces décisions ont eues. Comment, et vous avez aussi décrit des capacités d'influence, de lobbying qui ont réussi de la part de l'Allemagne à travers l'autorité bruxelloise. Comment vous expliquez qu'une nation arrive à défendre d'un côté des intérêts donc purement nationaux à travers l'échelon européen et qu'inversement, des responsables politiques qui étaient vos interlocuteurs, mais aussi des responsables industriels ou des voire des responsables administratifs, donc ils ne sont même pas soumis à la pression des élections, hein, qui sont par nature inamovibles et protégés, ne défendent pas l'intérêt visiblement donc national et prennent même des décisions en pleine conscience de cause, contraires à l'intérêt national et même contraires à leurs propres intérêts, presque parfois égoïstes. Vous avez ensuite parlé des conséquences financières de l'AREN. J'ai essayé à plusieurs reprises depuis de nombreuses années, aussi bien même avant mon mandat, d'essayer d'obtenir une estimation de la perte financière qu'a représenté l'AREN pour EDF depuis sa mise en place. Combien EDF, parce que là on a une estimation, quand on a une estimation, je crois, de 16 milliards d'EBITDA, là, de pertes, enfin je ne sais plus, je n'ai plus les chiffres en mémoire, mais enfin là on a eu une estimation quand le volume d'AREN a été augmenté, et donc on a une estimation pour une seule année de la perte que ça représentait pour EDF. Alors là, les circonstances sont exceptionnelles, mais en période avant la crise du gaz et son l'emballement du marché européen, du prix de l'électricité européenne, est-ce que vous, en tant que dirigeant d'EDF, vous aviez estimé et transmis au gouvernement combien l'AREN faisait perdre à EDF, et donc par corrélation, par projection, combien on a perdu sur l'ensemble de cette année, et évidemment les conséquences que ça a eu sur la pérennité et la capacité d'investissement d'EDF, au-delà de la question du prix de l'électricité que vous avez soulevé et bien expliqué. Sous votre aussi, vous avez commencé à évoquer les questions de filière industrielle, hein, sous les questions du président de la Commission. J'aimerais revenir dessus. Vous avez cité donc M. Cron, président à l'époque d'Alstom, Mme Lauvergeon, présidente d'Areva, et M. Mestrallet, c'était en tant que responsable de d'Engie. Oui, Suez, c'est ça, à l'époque, pardon. Vous avez évoqué ce phénomène, mais effectivement, la filière industrielle en tant que telle, de production matérielle industrielle, s'est ensuite effondrée avec la vente d'Alstom. Vous avez été président d'EDF entre deux événements. Donc, premier événement, le premier démantèlement d'Alstom sous impulsion bruxelloise, donc présenté à l'époque comme un plan de redressement pour moi, mais là, ça n'engage que le parti que je représente, c'était le premier plan d'affaiblissement d'Alstom. Et ça a mis les graines de ce qui ferait son effondrement. Et le deuxième événement, c'est sa vente par d'abord M. Montebourg et ensuite M. Macron. Vous avez donc vécu la période intermédiaire, notamment les relations entre, à l'époque, justement, Alstom et Areva, puisque Alstom avait transmis, Alstom à transmettre à Areva ses transmissions-distributions, qui était une filiale particulièrement rentable. Filière qui est finalement revenue à Alstom aussi, il me semble, sous votre mandat. Donc, vous avez assisté ça en tant qu'expert du domaine. Hein, est-ce que vous avez un commentaire à faire sur la fragilisation que ça a pu faire, aussi bien d'Alstom que d'Areva, et peut-être d'autres filières comme Power Conversion? Peut-être avez-vous connu ce dossier. Enfin, d'une manière générale, vous, en tant qu'acteur à ce moment-là, est-ce que le gouvernement vous a demandé à un moment ou à un autre de reprendre le contrôle capitalistique d'un certain nombre d'activités industrielles? Est-ce que vous pensiez que ça aurait été une bonne idée? Les dirigeants ensuite d'EDF ont visiblement, sous la contrainte, pris le contrôle d'un certain nombre d'outils industriels, faisant savoir au gouvernement, selon les informations dont on dispose à travers la presse, que ce n'était pas spécialement le métier d'EDF. Bon, ça n'a pas empêché EDF d'acquérir d'une part Framatome, puis ensuite maintenant visiblement de récupérer les turbines Arabelle. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements? Est-ce que vous estimez que c'est le métier d'EDF ou au contraire qu'il aurait mieux fallu peut-être recréer un champion type CGE capable de maîtriser l'ensemble de la filière industrielle, comme le font, Toshiba, Hitachi, enfin d'autres conglomérats à travers le monde. Ensuite, vous avez aussi autre sujet industriel. Est-ce que, sauf erreur de ma part, vous avez aussi, sous votre mandat, acquis Photowatt, au producteur de panneaux photovoltaïques français? Est-ce que vous pouvez nous exprimer les conditions de cette acquisition? Est-ce que c'était une stratégie de votre part? Est-ce que c'était une demande de gouvernement? Qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise et qu'est-ce que vous pensez de manière générale, puisque le Parlement en ce moment est en train de voir la suite de la planification avec une multiplication par 10 du potentiel photovoltaïque français sans filière française? Qu'est-ce que vous pensez de la stratégie qui a été menée pour développer et protéger, ou surtout ne pas protéger, la filière française? Quelles leçons en tant qu'industriel on pourra en tirer pour ne pas que ça se reproduise? De la même manière, sur le sujet Penly 2, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur les conditions des négociations de Penly 2? Où en étaient exactement les négociations? De la même manière, comment ça s'est arrêté? Et aussi, et ce sera ma dernière conclusion, pour l'accord de Fessenheim, il me semble, pareil de mémoire, que vous étiez particulièrement offensif, et pour moi à juste titre, dans la défense des intérêts d'EDF et donc du contribuable consommateur. Dans l'accord de fermeture de Fessenheim, il y a eu un accord. Alors là, ma mémoire flanche. Je ne sais pas si c'est encore sous votre mandat ou sous celui de votre successeur que l'accord final a été conclu. Qu'est-ce que vous pensez de cet accord? Une fois de plus, l'analyse du parti que je représente estime que cet accord est un accord au rabais, qui n'a pas du tout défendu les accords d'EDF. Et donc, une fois de plus là, est-ce que EDF a en fait payé à double titre par la fermeture de son outil économique, mais en plus par l'acceptation d'un accord qui n'était pas fondé sur des fondamentaux économiques qu'aucune autre entreprise privée n'aurait accepté? Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus? Et vous, aussi par rapport à l'expertise que vous avez, est-ce que vous estimez que des étapes définitives du démantèlement de Fessenheim ont été franchies, puisque depuis une semaine, on entend des voix discordantes sur ce sujet? Je vous remercie.
Merci, Monsieur Proglio.
Monsieur le député, je vais essayer de répondre brièvement, mais sans omettre. Ici, je fais une omission. Merci de me le dire. Parler des rémunérations, c'est un sujet extrêmement sensible et difficile à aborder en tout état de cause, parce que Le public a du mal à considérer que le niveau de rémunération d'une cadre dirigeant peut être... Bon. Pour vous faire une confidence, j'ai dirigé une maison qui était la Générale des Eaux, devenue Veolia. J'ai eu la chance de sévir pendant très longtemps. Je suis parti de cette maison compter 300 000 collaborateurs. Chez EDF, il n'y en a que 180 000. Mais la sociologie est très différente. Autant chez Veolia, on avait 20% de cadres et agents de maîtrise et 80% de col bleu. Autant chez EDF, c'est rigoureusement l'inverse. Puisque l'essentiel des travaux sont sous-traités. Et seules des activités de distrib, surtout distribution un peu de transport, comptent des effectifs de col bleu significatifs. Pour le reste, chez EDF, il y a essentiellement des cadres et des agents de maîtrise. EDF, société mère. Pour faire juste vous remémorer un chiffre, les coûts de personnel d'EDF, société globale, société intégrée, si je puis dire, si on pouvait continuer à intégrer les distributions et la production, les coûts de personnel sont de 9% du chiffre d'affaires. Si on regarde 11%. Si on regarde EDF société mère, c'est-à-dire la production et la recherche, enfin l'essentiel de ce qui reste aujourd'hui chez EDF, on descend à 9%. C'est-à-dire que si vous faites 10% d'économie sur la masse salariale d'EDF, l'impact sur le résultat est modéré, pour ne pas dire très faible. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas le faire. Ce sont des chiffres difficiles à manier, parce que soit vous les mettez sur la place publique et au fond, les gens vous disent « bon, à quoi ça sert ?» Pourquoi des grèves s'il faut serrer un peu les vis ici ou là, éviter les sur-effectifs, gérer avec rigueur, si l'impact sur le résultat n'est pas sensible. Bon. Et en même temps, vous voyez bien le risque que vous prenez en ne pas le faire ou en le faisant. Donc c'est assez ce sujet compliqué. Mais pour revenir au monde non pas virtuel, au monde réel, le fait est que quand vous regardez les rémunérations des cadres supérieurs ou dirigeants, force est de constater que le monde de la finance est à un niveau qui est inaccessible par le monde de l'industrie. Mais le coefficient multiplicateur qui peut être très important, en tout cas plusieurs fois. Bon. Y compris chez EDF. Bon. Et quand je prends la particularité d'EDF, EDF, bon. Vous avez, par importance, des salariés qui sont au statut et d'autres hors statut. La différence est que les uns bénéficient donc des avantages statutaires et pas les autres, et que l'écart de rémunération entre les deux est d'à peu près 15%. Les non-statutaires étant 15% mieux payés que les statutaires. Ce qui rend la discussion sur le statut encore un peu sensible, et je n'aurai pas de mots simplistes pour évoquer les régimes spéciaux comme d'aucuns le prétendent. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. Bon. En arrivant en fin 2000, c'est une anecdote, en fin 2009, quand vous arrivez fin novembre, début décembre, vous vous préoccupez quand même. Enfin, je convoque ma DRH, je dis écoutez, on va passer le temps qu'il faut, je veux passer en revue les cadres pour voir, mettre un peu dans l'œil leur profil. Et puis, parce que ça va être le moment des augmentations, des bonus. C'est le moment de l'année où on se penche un peu sur ce sujet-là. Il m'a dit, mais vous n'y pensez pas, monsieur ? Si, si, j'y pense, sinon je ne vous le dirai pas. Mais oui, mais il y en a beaucoup. Il y a même une direction des quatre dirigeants, vous comprenez. Alors, j'ai dit, on passera les week-ends, les nuits, y compris les fêtes, s'il le faut. Mais on va le faire. Je l'ai fait. J'étais surpris du niveau relativement modéré, pour ne pas dire très modéré, des rémunérations de DF. Et notamment dans le nucléaire. Alors quand je pose la question, je dis mais pourquoi ? Ah ben vous comprenez, il n'y a pas de concurrence. Et c'est vrai qu'il n'y a pas d'autre nucléaire en Europe que la France, depuis que l'Allemagne a arrêté. Et donc, sous prétexte, là aussi, vertu du libéralisme et de la concurrence, puisqu'il n'y a pas de concurrence, c'est pas la peine de payer les gens plus que ce qu'ils acceptent de l'être. Bon, c'est pas comme ça qu'on les recrute non plus. Donc j'ai essayé de corriger le tir, ce qui m'a valu quelques remarques acerbes de la Cour des comptes, Broglio achète la paix sociale, tu parles. Bon. Il faut avoir ça en tête quand on parle d'un sujet à horizon long terme, parce que la compétence de demain, c'est aujourd'hui qu'on l'a construit. Donc, on a perdu des gens, on continue à en perdre. Le patron du parc nucléaire français est parti, dès qu'il a pu prendre sa retraite, il est parti, il était au statut, donc il a la retraite, et puis il est parti au Canada gérer une utility américaine ayant 2 ou 3 centrales nucléaires. Il a multiplié par 3 sa rémunération, il vit au Canada, c'est très bien, les impôts sont inférieurs, enfin, etc. Il y a quelques avantages. Bon. N'oubliez pas ça. Je crois qu'il faut, en tout état de cause, savoir reconnaître les mérites et le talent des gens, et pas uniquement en termes de concurrence. On n'est pas près du bord. Et je crains qu'on ne fasse pas grand-chose pour faire évoluer le sujet. En tout cas, je le dis de manière très sincère, très simple. J'ai découvert cette maison sur le tard. En principe, on ne devient pas président d'EDF en démarrant. Et j'avais une longue expérience de gestion d'hommes et de talents. Je peux vous dire ça et je crois qu'il faut y être très attentif. Il faudrait que l'État y soit plus attentif qu'il n'y est aujourd'hui. Ce n'est pas par le nombre, mais par le talent qu'on construit une aventure. Deuxièmement, l'hydroélectricité, oui, je n'ai pas fait le recensement ni porté à la connaissance des pouvoirs publics. L'État est, je dirais, exhaustif des opportunités qu'il peut y avoir, mais il suffit d'aller sur le terrain auprès des collectivités territoriales, et eux sont beaucoup plus à même encore que des grands spécialistes de vous dire quels sont les potentiels. Je sais que dans la région niçoise dont je suis originaire, on peut augmenter assez sensiblement les capacités hydrauliques par des investissements pas très importants, en fait, grâce au relief. Et il en est de même dans chacune des régions françaises. Je pense qu'on aurait intérêt à ce que la coopération entre les techniciens, alors je dirais d'EDF, pour aller au plus simple, parce qu'ils sont au moins opérationnels, et les responsables des pouvoirs publics locaux se parlent encore plus qu'ils ne le font aujourd'hui pour faire justement le détail des optimisations possibles. Et je suis convaincu qu'on peut gagner entre 10 et 15% de capacité hydraulique, ce qui peut être extrêmement important pour les années à venir. Notamment les nouvelles STEP, enfin, auxquelles vous avez fait référence. Pourquoi est-ce que le lobbying allemand est plus puissant que le lobbying français? J'allais dire parce que... Je me souviens d'un dîner avec Angela Merkel, en petit comité. Elle n'avait pas fait l'honneur de me recevoir en tête-à-tête, mais c'était à l'inauguration de la foire de Hanovre. J'étais avec le Premier ministre français, on était 5 de chaque côté, donc on n'était pas nombreux. Et je venais de vendre au NBV notre filiale de Bade-Wurtemberg aux Allemands à un prix, encore une fois, inespéré, de 7 milliards d'euros. Elle venait de sortir du nucléaire. C'est juste 3 semaines après la session, arrêt Fukushima, elle sort du nucléaire et donc la société ne vaut plus rien. Et moi, j'ai ramassé 7 milliards. Donc, j'ai eu un procès avec des Allemands que j'ai gagné. Enfin, je, escalité. Et Merkel me dit, monsieur Broglio, vous avez fait une bonne affaire sur notre dos. Hein. Je dis, mais c'est grâce à vous, madame la chancelière, pas apprécié du tout. Je dis, vous êtes sorti du nucléaire. Donc, bon. Alors ça l'a beaucoup énervé. Elle m'a dit, monsieur Broglio, je vais être très clair avec vous. Je suis une Allemagne de l'Est. Je suis une scientifique d'Allemagne de l'Est. Je crois totalement au nucléaire. Mais elle est en pleine période en 2012. D'élections régionales, elle avait perdu le Land de Bade-Wurtemberg, justement, et le Land de Hesse, etc., et quelques grands Länder allemands, et donc elle était en phase d'élections générales à haut risque, et il fallait qu'elle bâtisse un accord de coalition. Évidemment, elle était engagée dans une négociation avec le SPD, mais elle voulait avoir une alternative, parce que sinon... Elle était coincée par l'SPD. Elle a donc ouvert une négociation avec les Verts conservateurs allemands. Chez les Allemands, vous avez des Verts conservateurs et des Verts de gauche. Ce n'est pas les mêmes. Et pour boucler cette négociation, elle a lâché le nucléaire. Elle me l'a dit. Elle m'a dit, je le fais pour des raisons politiques. pas du tout technique ni scientifique. Le mot était lâché. Du coup, Siemens est sorti du nucléaire et toute l'Allemagne est sortie du nucléaire, avec les conséquences qu'on sait sur la France. Donc, l'Allemagne est consciente de ses responsabilités, l'Allemagne est consciente de ses propres enjeux et de ses propres intérêts. D'ailleurs, personne ne parle en Allemagne du couple franco-allemand. Il n'y a qu'en France qu'on parle du couple franco-allemand. Donc, ça me donne le sentiment d'une femme désespérée qui s'accroche à son homme en disant « on est un couple bon, », qui est prêt à tout lâcher pour que le couple ait l'illusion d'exister. Je pense qu'on n'a rien négocié contre le sacrifice d'EDF. En tout cas, je n'ai pas connaissance de contrepartie qu'on ait obtenue. C'est pénible, mais bon. Donc c'est la seule réponse que je puisse faire à votre question. Je ne vois pas pourquoi la France ne prend pas l'initiative, comme l'Espagne et le Portugal, de sortir du marché européen de l'énergie. Pardon de cette image. Je la retire. J'aurais pu dire l'inverse, hein, mais bon. Pardon, madame, pardon. Bien, les conséquences de la REN sur l'équilibre financier d'EDF, vous savez... On peut se livrer à des calculs. C'est 25% de la capacité nucléaire d'EDF, c'est-à-dire 25% de la production. Alors, si la production est normale, c'est-à-dire 430 TWh, il suffit de prendre le quart de cela, que vous vendez à 42 €, et après, il faut savoir quel est le manque à gagner par rapport au tarif normal. Alors, ça dépend si vous référez au tarif régulé, qui était le tarif de l'époque, ou au tarif de marché, avec les vicissitudes d'un marché qui passe de 50 à 1000. Mais en tout état de cause, le chiffre est considérable. C'est sûr. Alors, il est pondéré par le fait que, à cause de cela, la France, EDF, la France, est obligée d'augmenter les tarifs de vente aux Français pour compenser le manque à gagner d'EDF. Parce qu'il y a une annexe à cela. C'est au fond, rien ne se perd, rien ne se crée. Qu'est-ce qui fait qu'EDF a survécu à cela? Parce qu'on a négocié des augmentations tarifaires pour que l'équilibre économique du groupe soit préservé. Donc vous voyez, c'est plus compliqué à analyser finement que de simplement faire un calcul de multiplication et d'addition. Mais si quelqu'un pouvait faire ce calcul même approximatif et voir quels sont les impacts sur le coût de vente de l'énergie, je pense que c'est un sujet qui mériterait une certaine attention. Le démantèlement de la STOB, bon, j'ai été spectateur. Enfin, je veux dire, franchement, je corrigerai juste votre propos parce que j'ai assisté à des réunions à cette époque-là. Et M. Montebourg a démissionné à cause de ça. On ne peut pas le rendre complice de cette action. Il était révolté contre la vente de l'Alstom aux Américains. Bon, je dis ça parce que j'en étais le témoin et que je suis obligé d'en porter connaissance. Bon, est-ce que c'est le métier d'EDF? Non. Non, EDF n'est pas un industriel. C'est un architecte ensemblier, gestionnaire, opérateur, mais qui sous-traite la dimension industrielle de ces éléments constitutifs de son patrimoine industriel à des entreprises spécialisées, qu'il s'agisse de BTP, de chaudronnerie, Donc, toute la partie industrielle avait vocation à être développée par la filière, pas par EDF. Bon, voilà ce que je peux dire. Le reste, le commentaire... PhotoWatt, oui, j'ai essayé de sauver PhotoWatt parce que c'était la dernière entreprise européenne et française qui restait dans le domaine du photovoltaïque et que je considérais qu'il était de mon devoir d'essayer de la sauver. Bon. Je l'ai fait, je le reconnais. Les chiffres en cause étaient ridicules par rapport aux chiffres manipulés par EDF. Et EDF, c'est entre 15 et 17 milliards d'investissements annuels. Donc c'était marginal. Encore fallait-il obtenir, si possible, que PhotoWatt ait une petite priorité dans l'installation des parcs photovoltaïques, ce qui n'a pas été le cas. Et donc aujourd'hui, tout est chinois et on s'en satisfait. Bon. Donc, il n'y a pas eu de stratégie de filière française. Ça n'a pas existé. Penly 2, fut un temps lointain où dans les arbitrages ministériels, Penly était réservé à Suez pour les dédommager de ne pas être un opéra, enfin, être un acteur important de la filière. Je reconnais avoir un peu réagi. Que Penly 2 ne se fasse pas ne m'a pas fait pleurer à chaudes larmes. Considérant qu'on... D'ailleurs, on aurait un EPR de plus en situation de... Enfin, c'était encore pire, fait par Suez, qui n'avait aucune centrale nucléaire en dehors des Belges, dont ils avaient hérité par Electrabel dans son patrimoine, de construire un nouvel EPR. Enfin, c'était un peu psychédélique. Bon. J'ai réussi à le faire comprendre. On a enterré Penly avec les honneurs dus à ses promoteurs. Voilà, en gros... Comment je peux résumer les réponses? Pardon si j'ai été un peu rapide à ces questions diverses.
Merci bien, monsieur.
Ah, Fessenheim. Ne remuez pas le couteau dans la plaie. En séance ici, dans cette noble maison, j'ai vu l'audace de répondre à la même question à l'époque en disant « Seul le président de l'EDF peut fermer Fessenheim, l'État n'a pas le droit, c'est juridique. » De fermer Fessenheim sans l'accord du président de l'EDF. C'est un problème juridique. Ça a été d'ailleurs entre-temps traité. Et à ce titre, je demande une compensation. Fessenheim, c'est 400 millions d'EBITDA, je me souviens très précisément des titres. J'ai obtenu 10 ans d'extension de la durée de vie de Fessenheim. Je suis sûr d'avoir les 10 ans suivants. Je demande à l'État 8 milliards de compensation, puisque. J'avoue que c'est passé difficilement. J'ai été très, très lourdement montré du doigt. Certains se sont réjouis dans la salle, hein, je reconnais, mais pas tous. Et donc, j'ai demandé 8 milliards. Je suis parti avant que Fessenheim ne ferme. Il me semble avoir lu que EDF a obtenu 400 millions. No comment, je n'étais plus là.
Merci beaucoup. Comme député de Fessenheim, je ne peux que confirmer certains chiffres. Monsieur Dubois.
Oui, monsieur Pourglio, merci pour tout ce que vous nous avez dit. Ça éclaire énormément les choses, c'est le cas de le dire, sans mauvais jeu de mots. Moi, j'aurais simplement...
Une question courte. Couper, mais de mon temps, enfin, avant mon arrivée, il y avait un slogan d'EDF. Nous vous devons plus que la lumière. Ça m'avait marqué parce que, pour une fois, une entreprise devait quelque chose. C'est ça la contrepartie du service public. On vous doit quelque chose. Et plus que la lumière. Je trouve que c'était un bon résumé, mais pardon. J'aurais dû garder ce slogan.
Vous avez bien fait de reprendre la parole. C'est intéressant. Donc, moi, je voudrais simplement revenir sur 2012. Vous nous dites, effectivement, le nucléaire produit 80%, l'hydroélectricité 15% et les énergies nouvelles, le reste.
Il y a un peu la pointe avec le...
Oui, il y a une campagne de 2012, donc je suppose que c'est, parce que vous ne l'avez pas précisé, mais la campagne des présidentielles qui dans son programme, annonce la fermeture de 28 réacteurs pour baisser donc à 50% la production du nucléaire. Donc ce qui nous amène à ce fameux mixte énergétique, finalement, aujourd'hui, à ce moment-là, j'aimerais bien votre confirmation sur le phénomène qu'on avait bien notre souveraineté électrique, et qu'aujourd'hui, nous ne l'avons plus, nous sommes toujours sur ce mixte énergétique, et on se rend compte que dans ce mixte énergétique, sur les ENR, l'hydroélectricité produit 49%. Donc, est-ce qu'il vous paraît pertinent, à l'avenir, de développer l'hydroélectricité par ces fameux STEP de pompage-turbinage, et comment... En tant que président d'honneur d'Électricité de France, comment on pourrait donc relancer des investissements, et notamment sur ces STEP, et comment sortir de ce problème de renouvellement des concessions si on veut garder notre entreprise EDF? Et pour en sortir, quelle solution proposeriez-vous si vous étiez aujourd'hui président d'Électricité de France? Merci.
Ma diplomatie n'a jamais été mise en cause, comme vous l'avez compris. Enfin, je me suis toujours exprimé de manière assez carrée, sans trop de nuances. Je crois qu'il ne faut pas nuancer son propos. Enfin, il est hors de question que la France se prive de ses barrages. La France doit dire à l'Europe, niet. Bon. D'où sort cette espèce de l'absurdité qui consiste à dire que grâce à notre relief et grâce aux investissements faits par la nation, puisque les barrages appartiennent à la nation française, pas à EDF qui les gère, pourquoi est-ce qu'on irait donner... Enfin, ça serait un gâchis épouvantable en termes industriels et économiques, puisqu'encore une fois, il serait acheté pour la valeur de production et pas pour la valeur de stockage, qui est immatérielle, qui a valeur d'optimisation. Donc il faut simplement dire non. Bon, quitte à payer des amendes. Les troupes belges vont envahir la France. Non, mais de quoi on parle? Donc s'il s'agit de négocier des amendes, on négociera des amendes. Si amende il y a. Mais il appartient à ce pays de faire valoir ses intérêts vitaux. Je ne vois pas pourquoi, c'est ce que j'ai plaidé pendant toute ma période de présence à la tête de cette maison, quelle raison d'absurde est-ce qu'on accepterait de faire des appels d'offres de gestion des barrages? Ça n'a pas de sens. Donc, la réponse, vous l'avez, sur les nouveaux investissements, vous savez, ce sont des investissements d'appoint, c'est pas ça qui va être fondamentalement un élément de souci pour EDF. Ou alors, c'est qu'on est arrivé à un niveau de désagrégation qui... Bon. Encore une fois, EDF, c'est bon an, mal an, 15 à 17 milliards d'investissements annuels. Il s'agit là d'investissements d'appoint, d'extension de capacité ou de nouvelles steps. C'est par dizaines de millions, éventuellement par quelques centaines, que ça se traduira, pas par des milliards. Donc, le sujet, c'est plus un sujet de recensement et d'optimisation qu'un sujet d'investissement.
Merci bien. Madame Lernos.
Oui, merci. Quelques questions concernant la perte de la superbe de la filière nucléaire française dans le monde qui se découle sur un certain nombre de faits précis, notamment sur les contrats perdus avec les Émirats arabes unis, l'échec commercial d'Abu Dhabi. Pourquoi la filière nucléaire française, présentée comme le fleuron de notre industrie et référence mondiale en nucléaire, a-t-elle perdu en 2009 le contrat de 20 milliards de dollars avec les Émirats, qualifié comme imperdable? Est-ce que l'EPR était trop cher? Est-ce que les difficultés rencontrées sur les chantiers de Taishan ou d'Olkiluoto en Finlande ont refroidi le gouvernement émirien? Et plus globalement, de votre point de vue, est-ce que ces difficultés ont entaché de manière assez durable et de manière assez permanente la réputation du programme nucléaire français dans le monde. Ça, c'est une première question. Liée à celle-là, beaucoup, en tout cas quand on lit les propos, affirment que la France a pendant des années arrêté d'investir dans le nucléaire en France pour faire le choix prioritaire de l'exportation de l'EPR à l'étranger, notamment en Finlande et en Chine. Est-ce que vous corroborez ces propos-là ? Est-ce qu'on a privilégié l'exportation avec des succès, comme on peut s'en apercevoir, à géométrie variable et au détriment des investissements qui auraient été nécessaires ici ? Sur un autre sujet, sur les moteurs diesel d'ultime secours, puisqu'on a parlé un petit peu d'Alstom, concernant l'appel d'offres pour l'installation des moteurs diesel d'ultime secours qui ont été remportés par Clemcy et Westinghouse en 2013. Il y a depuis 2014 de nombreuses voix qui s'élèvent pour le contester, notamment Yves-Marie Lemarchand, ingénieur en génie atomique et ancien membre de l'ASN, ainsi que des ingénieurs d'EDF, pour critiquer le choix qui a été fait de choisir un prestataire sur des critères de prix plutôt que sur des critères de qualité technique. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre de contestations, y compris juridiques. J'aimerais savoir pourquoi ce choix a-t-il été fait à l'époque, alors qu'il était clairement contesté, y compris par les experts du nucléaire. Est-ce que vous avez délibérément fait un choix économique au détriment de la sécurité ? Est-ce qu'il y a des autres marchés sur lesquels EDF a privilégié des critères financiers au lieu de privilégier la qualité technique et la sûreté ? Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui sur la qualité de ces DUS au regard de l'analyse qui en a été faite, notamment par Yves-Marie Lemarchand, et des multiples départs de feu, notamment en 2021, puisque sur ces DUS, il y a non seulement eu des retards dans leur installation, mais aussi des problèmes techniques. Ces problèmes techniques n'ont été signalés par EDF que plusieurs mois après le fait que ces problèmes aient été survenus à l'ASN. Est-ce que c'est symptomatique de la communication entre EDF et l'ASN ? Et est-ce que EDF tarde toujours à prévenir des défaillances techniques son agence de sûreté ? C'est des choses qui me semblent importantes de revérifier. Sur les liens maintenus avec Rosatom, vous avez dirigé pendant des années l'entreprise française de production et fourniture d'électricité aujourd'hui. Vous continuez à siéger dans le conseil consultatif international de Rosatom, qui est le géant nucléaire russe, qui est fondé par Vladimir Poutine. Dans certaines revues de presse, on peut voir que vous êtes également entretenu avec lui. Aujourd'hui, il occupe illégalement la centrale de Zaporizhzhia en Ukraine. Il fait subir des traitements inhumains aux employés ukrainiens. Il m'apparaît donc légitime de vous interroger sur la nature de votre poste au sein de cette firme. En quoi consistent vos activités ? Quels sont les conseils que vous pouvez apporter à cette firme ? Êtes-vous impliqué de près ou de loin dans les accords cadres entre Framatome et Rosatom ? Et est-ce que l'occupation de la centrale ukrainienne est évoquée dans ce conseil consultatif ? Et une question assez humaine, pourquoi est-ce que vous continuez à maintenir vos liens avec cet acteur russe aujourd'hui ? Pourquoi vous ne démissionnez pas ? Sur l'enjeu de l'uranium retraité, et donc avec toujours les liens avec la Russie, en 2013, vous avez cessé l'activité de réenrichissement de l'uranium de retraitement parce que les pratiques environnementales de Tenex, qui est la filiale de Rosatom, avaient été sévèrement critiquées et parce que le procédé dans les usines russes semblait insuffisante. C'est passé sous votre direction. Comment expliquez-vous qu'ensuite les accords cadres aient été passés en 2018 pour reconduire cette activité ? Et de quelles compétences manque-t-on en France pour réenrichir l'uranium de retraitement qui justifierait qu'on conclue des accords avec les entreprises russes comme Rosatom et Tenex ? Et enfin, sur la Chine, il y a eu, on peut voir et on peut peut-être vous interroger aussi si l'équipe du nucléaire telle qu'elle était présentée et les désaccords manifestes dont vous avez fait état aussi lors de cette audition avec la présidente de ce moment, Madame Lauvergeon d'Areva, En fait, sur les liens avec la Chine, qu'a conclu l'enquête de l'inspection générale des finances qui a été lancée en 2013, qui devait déterminer si vous aviez fourni des secrets technologiques nucléaires à la Chine. Et est-ce que l'ouverture de cette enquête aurait joué, selon vous, un rôle dans le non-renouvellement de votre contrat à la tête d'EDF en 2014, puisque manifestement, vous pensiez être reconduit, vous ne l'avez pas été, et donc il y a bien des raisons aussi au fait que vous n'ayez pas été reconduit. Toutes ces questions, puisqu'on parle d'indépendance et de sécurité d'approvisionnement énergétique, au vu des enjeux géopolitiques, vous avez tout à l'heure évoqué aussi les liens avec les Saoudiens et notamment l'entreprise du beau-frère de Ben Laden. J'imagine bien que les Anglais, à cette évocation, aient eu un mouvement de recul. Manifestement, l'État français en avait moins, en tout cas l'entreprise EDF. Et donc, ça peut poser un certain nombre d'interrogations sur la place de l'État français et puis surtout sur l'indépendance et la souveraineté de nos décisions, y compris en matière énergétique.
C'est... pas de mystère ni de sujet tabou. Alors, Abu Dhabi, oui, j'ai vécu la fin de la négociation d'Abu Dhabi. Je suis arrivé 10 jours avant la remise définitive des prix. EDF ne participant pas au groupement qui avait été constitué par Engie, enfin Suez de l'époque, Areva et Alstom. Les pouvoirs publics de l'époque m'ont sollicité en disant « Henri, il faut venir, parce que là, franchement, les Émiratis étaient très déçus qu'EDF ne soit pas autour de table, considérant que la référence mondiale du nucléaire, c'était EDF, et pas Suez, qui n'en a pratiquement pas, ni personne d'autre. Et donc, ils se sont sentis très humiliés par la non-présence d'EDF. Par ailleurs, il y a eu beaucoup de maladresses. Le consortium en question était constitué de gens qui chacun tirait la couverture à lui. Donc, j'ai vécu ça en direct. Je ne pouvais pas rentrer dans le détail. Nous avons perdu à Abu Dhabi parce que la France est mal organisée. C'est tout. C'est ni plus ni moins. C'est les Coréens qui l'ont emporté. Bon, on disait plus cher. Enfin, on avait aussi. Je pense qu'on aurait eu des possibilités, mais qu'à cela ne tienne, il arrive qu'on perde des appels d'offres. Je ne jette la pierre à personne, c'est celui-là, on l'a perdu. Voilà. Est-ce que ça a des conséquences? Non. Puisque les Coréens, c'est un petit groupe et qui n'a pas les moyens de conquérir le monde du nucléaire, et par conséquent, ça n'a pas eu beaucoup de conséquences. C'est simplement un échec pour la France. Je le reconnais. Alors, est-ce que les investissements dans le nouveau nucléaire... Vous avez parlé d'Okilioto, c'est Areva. Donc, est-ce que les mésaventures d'Areva ont empêché EDF de continuer à investir? Non. Donc, ça a probablement porté un préjudice grave à Areva, mais c'est tout, ni plus ni moins. Donc, non, il n'y a pas eu de choix de l'international par rapport à la France, jamais. Jamais. Et je vous ai dit tout à l'heure dans quelles circonstances et comment j'avais négocié le contrat britannique pour vous éclairer sur la manière qu'on avait, que j'ai toujours eu, d'optimiser nos investissements en réservant à la France un choix, une position tout à fait privilégiée et en faisant en sorte que les développements internationaux renforcent le groupe, mais pas au détriment de ses capacités d'investissement en France. Donc la réponse est très simple. Elle est non. Les diesels de secours. Ah, diesels de secours. C'est des diesels. Vous savez ce qu'est un moteur diesel? C'est pas de la technologie lunaire. Bon. Alors, il s'agissait de construire des diesels pour... c'est des moteurs de secours pour produire de l'électricité en cas de coupure, en cas de tsunami. Bon. Conséquence de Fukushima. Alors, on a construit partout, y compris en Alsace, où le tsunami n'est pas évident, mais enfin, bon, passons. Donc, comment est-ce qu'on gère un appel d'offres de ce type? Tout simplement avec une commission d'appel d'offres, avec des techniciens qui jugent si les gens sont compétents ou pas. Alors, il y a eu un certain nombre de mauvais coucheurs qui ont considéré qu'ils auraient dû être choisis. C'est possible. Je me souviens même de chantage fait par l'entreprise Mann allemande qui considérait que ça leur était dû. Bon. Ils ont fait un procès, ils l'ont perdu. Voilà. J'assume la responsabilité de ce choix qui a été fait par ma commission d'appel d'offres à laquelle je n'ai pas participé. Bon, puis c'est tout. Entre-temps, j'ai quitté EDF. Je ne sais pas si les diesels, alors qu'ils ne servent que d'ailleurs pour vérifier qu'ils sont bien utiles, enfin qu'ils sont susceptibles de pouvoir être utilisés, jamais un diesel de secours n'a été utilisé effectivement dans les centrales françaises, puisqu'il n'y a jamais eu de coupure d'alimentation. Bon, donc, est-ce que cet investissement était utile? Ça se discute. On l'a fait, 1 milliard. Est-ce que c'était la bonne technologie? Je crois. Pourquoi? Mais c'est spécialiste le penser. Tout. Est-ce que c'est un choix économique? Probablement en partie. Encore une fois, ce n'est pas la technologie qui pouvait départager les gens. C'est du béton et des moteurs. C'est ce qui est le cas. Non, mais ce qu'ils disent, m'importe peu. C'est ce qui est. Un diesel de secours, c'est un moteur diesel dans une tour en béton, parce qu'il faut le mettre au-dessus de certains niveaux de manière à ce que si le terrain est inondé, il ne soit pas immergé. Voilà. C'est pas non plus, encore une fois, c'est pas le voyage dans la Lune, hein. C'est pas SpaceX. C'est un moteur diesel. Bon. Et je reconnais que j'ai fait confiance à mes ingénieurs pour choisir les meilleurs moteurs diesel. Alors, est-ce qu'ils ont choisi en fonction du coût rapport prix-performance? Oui, sans doute.
En fait,
mais c'est faux. C'est faux. Écoutez, je ne veux pas passer notre soirée sur des moteurs diesel. Encore une fois, si vous choisissez une voiture, vous gardez le moteur. C'est à vous de vous orienter. Soit vous êtes compétent et vous pouvez choisir du fait de votre compétence, soit vous faites confiance à des gens réputés compétents en matière de moteurs qui vous disent ces moteurs-là sont fiables ou pas. C'est ce que j'ai fait. En complaisance. Alors, si c'était moins cher, tant mieux. Bon, on n'a pas raison d'acheter un V12 super sophistiqué pour.
Oui. Monsieur.
Retard d'installation, c'est possible. Départ de feu, c'est possible aussi. Je n'en sais rien. Bon. Je n'en sais rien. Je ne suis plus en poste. Donc,
on n'est pas dans une.
On passe sur les moteurs diesel. On passe
aux questions suivantes.
Rosatom. Je ne suis pas au conseil de Rosatom, contrairement à ce que les gens disent. J'ai connu Rosatom du fait de ma position chez EDF, puisque mon interlocuteur naturel, c'était M. Kyrienko, président de Rosatom, qui était un interlocuteur courant avec lequel nous avions des relations tout à fait agréables et efficaces. Bon. C'est un des grands acteurs industriels de ce pays, puisque ses 300 000 collaborateurs, c'est probablement la plus grande industrie aujourd'hui en Russie de haute technologie. Qui n'est pas sous sanction ? Je le précise. Le nucléaire n'est pas sous sanction. Ils m'ont fait l'honneur, quand j'ai quitté la maison EDF, de me coopter à un conseil consultatif sur le nucléaire civil qui regroupe des autorités de sûreté nucléaire italiennes, espagnoles, japonaises. Il y a un italien, un espagnol, un japonais, un russe et moi. On se réunit une fois de temps en temps pour parler des nouvelles technologies nucléaires, notamment des petits réacteurs. Je trouve que c'est intéressant. Donc voilà, je ne suis pas rémunéré, si peu que ça ne paye pas les voyages. Donc, oui, ça ne paye pas les voyages. Bon. Donc, je veux bien. Et c'est déclaré, donc il n'y a pas de problème. Je paye l'impôt là-dessus aussi. Voilà. Est-ce que j'en suis à 2000 euros? Non. Donc, si vous voulez. Je ne fais pas ça par l'appât du gain, je fais ça parce que j'y trouve un intérêt intellectuel d'une part, que je connais ces gens-là depuis toujours et que je ne vois pas pourquoi je leur ferais l'affront de dire je démissionne. Alors que ça fasse plaisir ou pas. Et ça n'est rien d'illégal, puisqu'encore une fois, le nucléaire est à part, il n'est pas compris, et EDF et le nucléaire français continue à travailler avec le nucléaire russe et devra encore durablement travailler avec le nucléaire russe. Et chinois, ne vous en déplaise. Alors, le contrat TNX, bon, J'apprends, c'est probable, que quand j'étais en poste, on l'avait dénoncé parce qu'il n'était pas suffisamment compétitif ou pas assez efficace. Il a été repris en 2018, vous me dites, par mon successeur. Et alors, ils ont dû améliorer leur traitement. Je n'imagine pas autre chose. C'est pas par complaisance. Donc, voilà. La Chine. Ah bah, il nous manque beaucoup de enfin, il nous manque des outils. Ce n'est pas tellement les compétences technologiques, c'est les outils. Alors, on peut investir. D'ailleurs, la question se pose. Faut-il investir pour être autonome ou peut-on continuer à sous-traiter? C'est la question. Donc, il faut la poser aux ingénieurs compétents. Moi, de mon temps, la question ne se posait même pas. Alors, aujourd'hui, elle doit se poser. Il y a des rationalités. Est-ce que on a la taille critique et on est suffisamment, on a suffisamment de volume pour investir massivement dans ce sujet, ou est-ce qu'il est encore possible de sous-traiter? On sous-traite à Westinghouse aux Américains, on sous-traite aux Russes dans ce domaine. Bon. Alors, je veux bien qu'on se retranche et qu'on soit autonome, mais encore une fois, c'est un choix à faire. Bon. Dès lors qu'on maîtrise la technologie, après l'outil, on peut dire qu'on a le temps de le construire. C'est pas... Ce qui est essentiel, c'est la compétence technologique. On l'a. La Chine, la fameuse enquête, qui n'a jamais été publiée parce qu'elle était classifiée secret défense, tellement elle était meurtrière pour l'État qui l'a commanditée. Moi, j'aimerais bien la voir publiée. J'aimerais. Je le sais par un des membres de qui a fait l'enquête, qui m'a dit, écoutez, c'est dramatique. Bon. Mais c'est pas grave. Il n'y a pas eu de suite. Ça a fait plouf. Bon, très bien. Alors, n'en profitez pas pour dire que cette espèce de raison sous-jacente pour que... Non, pas du tout. D'ailleurs, le principal témoin, interrogez M. Hollande, hein, vous dira pourquoi il ne m'a pas renouvelé. C'est pas à moi de vous le dire, puisque c'est lui qui a pris la décision après que sa ministre de... Ma ministre de tutelle et sa ministre de l'écologie et de la transition énergétique m'aient informé du contraire. Parce qu'elle m'a appelé en me disant « Je suis ravi, j'ai obtenu du président votre renouvellement. » Non. Elle est vivante. Elle peut vous le dire. Elle peut vous le dire. Donc, pas de débat. Et c'était bien après cet épisode grotesque d'enquête. Bon. Après, moi, le président, c'est ce que je lui ai dit, parce qu'on s'est vu longuement après cette décision. Je lui ai dit, écoutez, c'est pas la peine de prendre des prétextes. Vous avez 85% du capital. Il m'est arrivé combien de fois de dire à un président d'entreprise dont j'ai le contrôle, écoute, je suis très content de ton travail, mais j'ai besoin du poste. Puis c'est tout. On va pas faire d'état d'âme. Je ne suis propriétaire de rien. J'ai eu la fierté de diriger EDF. Je ne vais pas me plaindre, je ne suis pas une victime. Donc, voilà, c'est tout. C'est une décision régalienne de quelqu'un qui est l'actionnaire, qui a le droit de décider. Bon, il a hésité, puis il a dit oui, puis il a dit non. Enfin, bon. Ça arrive. Donc, tac, je ne me plains de rien. J'ai une vie passionnante. Je suis très reconnaissant à la République française de m'avoir donné cette chance. Voilà. On ne va pas épiloguer là-dessus. Mais je ne veux pas laisser quelques esprits malsains prétendre le contraire. C'est une vision logique, mais pas venimeuse pour dissimuler je ne sais quelle turpitude. Bin Laden. C'était le principal groupe saoudien de l'époque, le premier groupe saoudien, notamment dans le domaine du BTP et de la construction. C'est le groupe qu'avait choisi le Royaume d'Arabie Saoudite pour développer le nucléaire. Ce n'est pas un choix de Proglio. Je rends à César ou au roi d'Arabie ce qui lui revient. C'est son domaine. Il a choisi Bin Laden et c'est Bin Laden qui nous a été désigné. D'ailleurs, Arnaud Montebourg, qui était ministre à l'époque, m'a accompagné dans plus d'un voyage pour justement pousser le nucléaire français en Arabie Saoudite. Il vous en parlera largement. C'est Bin Laden qui avait été désigné. Point final. Donc, quand l'Arabie Saoudite me dit « je veux bien venir » et c'est Bin Laden qui portera le projet, ça me paraissait naturel et logique. qu'après le nom de Bin Laden soit connoté en raison d'événements que nous connaissons, mais que les Arabes, les Saoudiens connaissaient aussi bien que nous, mais considérés comme n'ayant aucun rapport avec l'affaire en question, c'est un fait. Bon, je vous ai retraduit mot pour mot les conversations que j'ai eues à l'époque. Je veux dire, l'Arabie Saoudite vient de signer avec les Russes. Peut-être ça vous a échappé. On a perdu une autre opportunité, d'une autre ampleur que les Émirats. Dont acte. Peut-être qu'il aurait fallu être plus présent auprès de ce client potentiel pour développer le nucléaire français. Mais c'est un avis très personnel. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup, monsieur le Président. On en conclut donc cette audition. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour les réponses claires et compréhensibles de tous que vous avez apportées à nos questions. Nous recevrons demain, pour poursuivre nos travaux, monsieur François Brotte, au titre des responsabilités qu'il a exercées à la tête de RTE, puis Jean-Bernard Lévy, qui vous a succédé. Je vous remercie et je souhaite à tous les membres une belle soirée. Si vous voulez ajouter quelque chose.
Bon, juste mes remerciements.
Très bien.
Merci de m'avoir donné l'opportunité de témoigner de ce que j'ai connu, bon, sans prétention, avec évidemment une espèce de vanité de vouloir servir le pays. J'ai défendu un certain nombre de positions que je continue à porter. Je n'ai pas toujours été entendu, mais c'est assez naturel. En tout cas, je vous remercie de votre attention. Merci de m'avoir invité. Et puis, je reste à votre disposition, bien sûr. Merci, mesdames et messieurs.
Merci beaucoup.
Bonne soirée.
La séance est levée.